Nicolas Boutier, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Nicolas Boutier, je vous retrouve pour notre rendez-vous mensuel dorénavant, depuis maintenant 3 mois à peu près.
Eh oui, c'est ça, ça va faire le 3e ou 4e numéro qu'on présente ensemble.
Au moins ça. Vous êtes, je le rappelle, le rédacteur en chef du magazine protestant régional Le CEP, Cévennes, Languedoc, Roussillon. Et nous allons ensemble évoquer le numéro du mois de décembre 2016, qui ne va pas tarder à arriver dans les boîtes aux lettres.
Qui ne va pas tarder, voire qui est peut-être déjà arrivé. Précipitez-vous.
Voilà. Alors, est-ce que ce serait une insulte que de vous demander quel a été l'axe fort de ce numéro du mois de décembre, Nicolas Boutier ?
Alors, deux axes. Le premier, toujours notre dossier qui prime un peu sur notre magazine. Et là, notre dossier parle de Dieu au top 50, donc dans les musiques populaires, les chansons populaires, celles qui évoquent Dieu, et il y en a beaucoup.
Là, il va y avoir des surprises, probablement.
Je pense qu'il va y avoir des surprises pour nos lecteurs. On est très loin des chants chrétiens, de nos cantiques de base et des chants chrétiens qu'on peut entendre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut faire une distinction entre le chant chrétien qui est, comment dire, dans ses gènes, qui donne un message sur l'engagement, la foi, etc. Et puis des chanteurs pas identifiés comme chrétiens, mais qui évoquent Dieu.
Exactement. Alors aussi bien sous forme de prière ou de demande ou de rejet aussi parfois, parce que ils ont un compte à régler, personnel ou sociétal, et donc ils invoquent Dieu ou ils parlent à Dieu.
Alors, il y a peu, nous avions évoqué juste avant sa mort le dernier CD de Leonard Cohen, dans lequel en effet il fait une très très belle prière et qui, une plainte, comme une plainte à Dieu, avec même des termes en hébreu. Et vraiment, c'était ces CD magnifiques, cette voix-là est magnifique, bien sûr.
C'est vrai, c'est arrivé au moment du bouclage du magazine.
D'accord.
Donc on n'a pas pu vraiment réagir à chaud. On aurait pu essayer, mais c'était un petit peu difficile.
Sur votre site internet, vous pourrez dorénavant.
Exactement, à partir du 17 janvier, dès que le site sera mis en ligne, on pourra comme ça réagir à chaud et à vif.
Voilà. Donc un dossier Dieu top 50 avec, alors est-ce qu'il y a des chanteurs qui vous ont, ou des chanteuses que vous avez découvert sous cet aspect-là, qui pour vous, même vous, rédacteur en chef, avait été surpris?
Alors, en fait, j'ai été plus surpris par les auteurs que par les chanteurs. Je pense que j'en connaissais quelques-uns, j'avais entendu chanter, mais je ne pensais pas qu'ils allaient pouvoir être cités dans le magazine. Et l'exemple pour moi le plus flagrant, c'est Ophélie Winter. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on la retrouve dans les pages du CEP. Et ben si, elle est citée comme étant une chanteuse qui parle de Dieu. Tout le monde a pu danser à l'époque sur cette chanson, et elle est aussi citée dans le CEP.
Vous en souvenez ? Vous vous souvenez du titre de la chanson en question ?
Oui, Dieu m'a donné la foi.
En français ?
En français, tout est chanté en français.
Ophélie Winter, donc, on pourrait dire la star du numéro du CEP de décembre 2016.
Il n'y a pas qu'elle, je vous rassure.
Il n'y a pas qu'elle.
Il y en a plein d'autres. Il y a tout un article sur Francis Cabrel. On évoque aussi la musique Dieu dans le rap. Enfin, on à peu près tous les courants de musique qu'on peut connaître dans notre société aujourd'hui sont abordés.
Et sur la couverture, vous avez aussi un jeune chanteur qui a fait parler de lui, qui fait parler de lui à chacun de ses CD qui sort d'ailleurs.
Exactement, oui. Grégory Turpin,
ouais,
qui est en couverture du CEP. Et qui en effet un chanteur chrétien, alors lui pour le coup engagé, et quand il chante c'est pour chanter Dieu et pas autre chose. Et voilà, donc c'est lui qui vient avec sa photo introduire notre dossier.
Est-ce qu'on cite encore U2 ?
Oui, ils sont cités.
On cite encore, c'est un groupe mais déjà un peu plus ancien.
En fait, il faut vraiment tout lire parce qu'il y a à la fois des chanteurs qu'on peut connaître parce qu'on se rappelle de leurs chansons et d'autres qu'on sous-estime ou qu'on a oublié. Et là, on traverse presque tout le XXe siècle en chanson, en évoquant ce qu'ils parlent, ce qu'ils chantent et ce qu'ils...
Est-ce qu'on peut donner les noms des responsables de ce dossier ?
C'est la PRD, c'est la presse régionale du Sud qui a...
D'accord, qui a tout organisé.
Tout organisé, qui récupère les différents articles de différents auteurs. Donc ça, c'est une préparation qui est très longue parce que c'est un dossier qui est en préparation depuis l'année dernière, déjà. Enfin, l'année dernière, avant les vacances d'été. Récupérer tous les articles des gens un peu spécialisés.
Alors, donc ça c'est le dossier, Dieu au top 50, et un numéro de décembre, vous n'avez pas échappé au thème incontournable.
Eh oui, Noël, c'est quand même celui-là.
Nous l'attendions quand même. Nous l'attendions.
Alors, la petite fantaisie que s'est permis le CEP ce mois-ci, c'est de promener tout au long de nos pages un petit lutin, le lutin parapluie, qui est un conte de Noël qui vient de sortir aux éditions Olivetan. Et on a pu avoir l'autorisation d'utiliser ce petit lutin pour illustrer notre journal. Donc, de page en page, il nous guide dans cette période de Noël.
Voilà. Donc, on n'est pas dans les cloches, on n'est pas dans les...
Des sapins, ni les boules de Noël. On est, voilà.
Au CEP, au mois de décembre 2016, c'est le lutin.
C'est le lutin pour les enfants.
Pour les enfants, oui. C'est un livre de... J'ai oublié son prénom là tout de suite, Madame Fournier.
Oui,
elle-même qui fait du théâtre, Pasteur, femme de théâtre, qui maintenant se met à l'écriture de contes pour enfants.
Exactement. Laurence Fouchier-Tartare.
Fouchier, pardon. Oh là là, là là. Laurence Fouchier-Tartare.
L'incroyable voyage du lutin parapluie, chez Olivetan. Et illustration d'Anne de Fréville. Voilà.
Alors, dans votre édito, Nicolas Boutier, vous dites que Noël, cette année... En tout cas, plus exactement, en ce moment, ce n'est plus la trêve des confiseurs, c'est l'amnésie générale. Qu'est-ce que vous entendez par là, Nicolas Boutier ? L'amnésie générale.
Je pense qu'on a vraiment oublié quel était le sens de Noël. Suffit de regarder, on est encore au mois de novembre, et il suffit de traverser les centres-villes, les centres commerciaux. Ça brille de mille feux, ça brille de mille étoiles, c'est superbe, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'on a oublié le message essentiel. Pourquoi on fête Noël et à quoi sert toute cette lumière? Alors je me suis quand même rendu compte que dans 2-3 endroits, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui l'ai remarqué plus cette année, il y a de plus en plus des petits Noëls solidaires, même dans des grands lieux commerciaux. Donc vous allez avoir un coin où on va vous demander de déposer des jouets ou de la nourriture. Mmh. Et on en entend peut-être un peu plus parler encore. Mais malgré tout, la lumière qui nous attend le 25 décembre est occultée par les lumières qui brillent parfois dans nos villes.
La naissance de Jésus, cette période de l'Avent aussi, qui était, vous semble, disparue de nos habitudes.
C'est l'impression que j'ai. Je trouve que c'est important. C'est peut-être un des seuls temps dans notre Église protestante unie qu'on suit encore vraiment ce temps de l'Avent où chaque culte avant, chaque dimanche avant Noël est très marqué, est important. Et je me dis que c'est bien de prendre le temps de réfléchir un peu au sens de notre vie et où va-t-on, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que...
Et pourtant, on dit que c'est une des fêtes avec Pâques la plus fêtée dans le monde chrétien.
Oui, ça, à côté de ça, c'est vrai que c'est très fêté. Mais est-ce que c'est très fêté, religieusement, ou est-ce que c'est très fêté parce que, c'est sympa les cadeaux sous le sapin de Noël? J'adore aussi, je vais être très franc. J'aime beaucoup, j'ai rien contre. Mais en même temps.
Vous n'allez pas refuser votre cadeau.
Je ne refuserai pas mon cadeau et je ne me refuserai pas d'en faire non plus.
Ouais. Alors, dû au top 50 pour le dossier, évidemment, la thématique de Noël, donc vous déclinez du coup sous quelle forme?
Alors on a demandé à tous nos chroniqueurs locaux de nous renvoyer toutes les informations qu'ils avaient sur les Noëls qui se déroulent dans leur paroisse. Et on en a retenu quelques-uns qui nous semblaient importants. Vous avez des choses qui se passent à Nîmes le 24 décembre. Il y a une veillée de Noël avec un repas qui se passe à la salle des Costières. Et c'est apparemment un moment fort qui se passe dans cette paroisse depuis très longtemps, donc qui revient chaque année.
Donc il y a aussi plutôt en fin de soirée ou...
Alors ça c'est une très bonne question que vous me posez là. Je pense que c'est à partir de 20h, c'est ça. Donc c'est une vraie veillée de Noël. Mmh. On part s'entourer de plein de gens, quitte à quitter notre famille ce soir-là. Et je trouve que ça doit être un moment très fort à vivre. Il y a des choses plus tournées vers les enfants, ça reste quand même Noël. Et à Mialet par exemple, depuis des années, ils organisent encore des crèches vivantes. Donc c'est, je trouve, un clin d'œil sympa et... qui se passe donc au temple de Mialet. Et d'autres événements, il y a à Vézenobre, la promenade des crèches, qui se déroule au mois de décembre. Donc il y a toute une promenade qui se passe de maison en maison, et non de lieu public en lieu public. Oui. Et les gens ouvrent leur maison pour faire découvrir leur crèche.
Ah oui.
Et c'est organisé à la fois par la paroisse protestante et par l'église catholique. Et on a une dame de plus de 80 ans qui nous a raconté ses Noëls d'enfance. Donc, c'était un moment très intéressant de voir un Noël protestant à Nîmes. Et qu'est-ce qu'il y avait autour du sapin? Qu'est-ce qui se passait? Et un moment assez émouvant parce que c'était vraiment... elle faisait partie d'un groupe de jeunes filles et elles allaient de maison en maison chez des gens un peu isolés pour leur apporter des prières et des chants. Mmh. Donc ça va être aussi des moments qui devaient être assez forts.
Absolument. Sobre. Un Noël sobre.
Un Noël protestant.
La parole avant tout.
La parole avant tout. Mmh. Et la chaleur humaine.
Et la chaleur, ouais,
finalement.
C'est ça. Ouais, se retrouver ensemble
c'est ça.
Pour fêter cette lumière.
Exactement.
La lumière. Pour toujours autour de Noël, vous avez choisi, j'ai vu ça, un conte de Noël, Quand vint la lumière, justement. Alors, comment est-ce que vous êtes-vous procuré ce conte? Comment est-ce qu'il vous est parvenu? Oui.
On a une chance énorme, c'est que, comme vous le savez, le CEP travaille avec le journal Échange et le journal Réveil, donc pour la région PACA et la région Centrale-Péronne. Et la rédactrice de la région PACA, Doris Ziegler, écrit des contes depuis très longtemps. Et donc régulièrement, nous avons l'immense privilège de pouvoir les publier dans nos journaux. En général, un en été et un au moment de l'hiver, parce que le numéro est un peu particulier.
Donc un inédit.
Un inédit, tout
inédit
à fait.
Pour le CEP.
Un inédit pour le CEP.
Deux pages.
Et des illustrations aussi inédites, qui sont... pour les lecteurs du CEP, dessiné par quelqu'un de bien connu, puisque c'est l'ancienne rédactrice, Anne Hermerdinger, qui l'est fait et qui a un très bon coup de crayon et de pinceau.
Oui.
Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir. C'est un joli conte et une jolie illustration.
Voilà, donc là, est-ce qu'on reste dans un, je ne l'ai pas encore lu, dans un Noël traditionnel?
Non, en fait, si on lit l'histoire, on n'est pas vraiment... dans un conte de Noël chrétien, j'allais dire, on ne parle pas forcément de Jésus. C'est la saison qui va nous rappeler que c'est un temps de Noël. C'est peut-être le fil de l'histoire qui va nous rappeler ce qui nous retient pour Noël.
C'est ça, le sens finalement de Noël à travers cette histoire.
Voilà, à travers cette histoire. Mais sans en faire, c'est pas la naissance, on ne parle pas de la naissance de Jésus dedans, par exemple.
D'autre part, vous vous êtes intéressé dans votre rubrique culture et médias, donc un peu plus loin dans la revue, je crois. Vous êtes en train de la feuilleter là, à l'antenne.
Tout à fait.
Vous vous intéressez au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, alors, quel point de vue du Moyen-Âge? Pourquoi le Moyen-Âge à ce moment-là? Qu'avez-vous voulu dire, pardon, sur le Moyen-Âge?
Alors en fait, ce qui se passe dans cette page, c'est que à tour de rôle, dans chacune de nos régions, nous essayons de mettre en avant une exposition qui se déroule chez nous. Et c'est apparemment une exposition majeure qui est en train de se dérouler à Moulins. Ils ont réuni des œuvres absolument exceptionnelles qui sont rarement réunies et qu'on n'arrive pas à concentrer comme ça aussi fortement. Et donc c'est pour ça que le rédacteur de la région Centrale-Péronne a décidé de mettre en avant cette exposition qui est apparemment absolument exceptionnelle. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Moulins, surtout n'hésitez pas à la découvrir. Et c'est jusqu'au 17 septembre 2017. Donc on a encore un peu le temps, mais
le temps passe vite. Et ça, à quel endroit à Moulins? Est-ce que c'est au musée, dans un musée?
Oui, au musée Anne de Beaujeu.
Anne de Beaujeu.
Alors pour être plus précis, c'est place du colonel Losséda, pour ceux qui connaissent.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103.1 à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Nicolas Boutier, nous continuons à feuilleter ensemble ce magazine du CEP du mois de décembre 2016. Nous l'avons vu, bien sûr, vous allez vous parler de Noël. Il aurait été inconcevable qu'il y ait une impasse sur cette fête.
On ne peut pas sortir un magazine au mois de décembre sans oublier Noël et souhaiter un joyeux Noël à tous nos lecteurs.
Absolument. Vous avez aussi un dossier qui intitulé « Dieu au top 50 » qui fait le tour des chanteurs chrétiens et non chrétiens qui évoquent Dieu dans leurs chansons.
Exactement.
Dieu au top 50. Et puis, je me suis un peu attardée sur ce reportage sur la Savoie. Alors, la Savoie, à ma connaissance, ce n'est plus le Languedoc-Roussillon. Et vous offrez pourtant, je me suis dit, tiens, c'est Noël. Un extra à la région des Cévennes, Languedoc-Roussillon. Alors pourquoi la Savoie tout à coup, Nicolas Boutier?
Comme je vous l'ai déjà dit, le magazine se partage à trois journaux, Échange et Réveil. Et cette page reportage ou la page rencontre avec tourne dans nos journaux. Ce qui fait que cette fois-ci, le responsable était Gérald Machabert, le rédacteur de Réveil, et il a fait un reportage sur sa région. Tout comme ce mois-ci, le Rencontre avec est à Montpellier, mais va être diffusé en Centrale-Péronne et en région PACA. Et donc, d'où ce reportage sur la Savoie. Donc, ce n'est pas un extra, c'est juste que c'est normal dans l'organisation de nos journaux.
C'est normal. Mais la Savoie, d'un point de vue paroissial, d'un point de vue protestant.
Alors, d'un point de vue protestant, apparemment, ce n'est pas un département très protestant, puisque la paroisse correspond à la taille du département de la Savoie. Donc, ça fait quand même une grande paroisse avec deux postes pastoraux, mais quand même très... Voilà, très
disséminé.
Très disséminé. Et puis bon, je pense qu'il y a une partie montagneuse. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des lieux de sport d'hiver qui sont très courus. Et je pense que c'est là que les pasteurs sont plus présents, surtout dans les périodes hivernales.
Quand on est touriste, on a quand même un pasteur là. Et là,
oui, c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on peut partir en vacances et retrouver un lieu de culte où qu'on soit au bord de la mer ou en haute montagne en train de descendre les pistes de ski. Et finalement, ça ne gâche pas les vacances de prendre une heure pour aller au culte le dimanche matin et se ressourcer aussi spirituellement, en plus de prendre du temps pour nos vacances.
Donc voilà, dans le numéro de décembre du CEP, nous évoquerons la Savoie. Vous évoquiez aussi tout à l'heure la rencontre avec Daniel Alexandre. Alors, Daniel Alexandre a-t-il un lien avec le poète et pasteur Jean Alexandre ?
C'est son fils. C'est son fils qui est à Montpellier, qui a rompu avec un passé et une tradition familiale de pasteur de père en fils. Lui a complètement quitté d'abord le milieu de l'église. Son père lui a laissé le choix et très rapidement, il a dit qu'il ne voulait pas faire son catéchisme. Et sa rencontre
c'est
avec
ça,
Dieu...
C'est ça quand on laisse le choix aux enfants.
C'est ça.
Non.
Mais ils y reviennent.
Ah, ils y reviennent.
Oui, parce qu'avec avec l'âge, je ne sais pas comment, ou avec la réflexion, il est revenu à une foi qu'il vit profondément et intensément. Et surtout qui le pousse à agir, et c'est là où c'est vraiment impressionnant et extraordinaire, parce qu'il est chercheur au CNRS, et donc très loin du monde de l'Église. Mmh. Et il a soudainement réalisé que son monde de chercheur était complètement désolidarisé de l'actualité du monde, de ce qui se vivait dans la société. Et au fil des hasards, vraiment, c'est parce que ça relève du hasard, il s'est engagé auprès des réfugiés, et particulièrement des familles de réfugiés avec des enfants.
Donc là, c'est vraiment dans ses actions de vie qu'il finalement, est-ce qu'on pourrait dire, transcende sa foi. Je ne sais pas comment le dire, mais rejoint le travail de son père. Enfin, c'est peut-être présomptueux de notre part.
Non, pas du tout. Je pense que c'est tout à fait ça. Et il a toujours eu chez ses grands-parents, ses grands-parents dont son grand-père était pasteur, et chez ses parents, énormément de passages. C'était déjà des lieux d'accueil. Ses grands-parents ont apparemment protégé des familles juives pendant la Deuxième Guerre. Ses parents, dès qu'il y avait des gens exclus, les accueillaient à bras ouverts. Et donc, je pense que c'est aussi une tradition familiale que d'être, de savoir accueillir.
Et pour terminer, je dirais que vous annoncez votre prochain dossier, Pape François, réformateur de son Église. Alors, vous l'aimez, ce pape, en vous qualifiant de rédacteur en chef du CEP, vous l'aimez, ce pape, au point d'en faire un dossier. Il mérite autant que ça?
C'est la grande question. C'est là où il va falloir lire le dossier, parce que c'est... la réflexion sur laquelle on a démarré, c'est le pape qui dérange et François qu'on aime bien. Parce que finalement, en tant que chef de son église, il y a forcément des discours et des choses qui peuvent nous déranger, mais en tant qu'homme, il a des gestes qui ne sont pas anodins, et qui peuvent aussi, en tant que protestants, nous interpeller. Donc on a décidé, en effet, de lui consacrer un dossier avec ceux qui vont le mettre un peu en avant et puis ceux qui vont aussi être ses détracteurs. Donc il y en aura quelques-uns.
Vous allez analyser ses encycliques?
Exactement, ses discours, ses gestes. Certains de ses gestes très connus, comme son voyage à Lampedusa, on a oublié que derrière, il y avait aussi l'église protestante italienne qui avait déjà tracé le chemin, qui l'a suivi. Donc voilà, est-ce qu'il y a un rapprochement entre des familles protestantes ou des courants protestants et le pape, ou est-ce qu'il arrive à sauter dessus et à récupérer ça? C'est la question, il va peut-être falloir lire le dossier pour tout découvrir.
Il faudra sûrement lire le dossier, donc un dossier du mois de janvier 2017.
Exactement.
Et nous serons déjà dans cette nouvelle année.
Et oui.
Écoutez, Nicolas, je vous laisse le mot de la fin, peut-être pour souhaiter ce que vous avez envie de souhaiter à nos auditeurs et auditrices d'FM+, dans la voix du CEP.
Dans la voix du CEP. C'est ce que j'ai écrit à mes lecteurs, en fait, finalement. C'est Donc de vraiment profiter de ce mois de décembre pour se recentrer sur soi, profiter, aller vers la lumière et surtout de passer d'excellentes fêtes de famille et de profitez-en pour offrir des cadeaux. Ça fait aussi plaisir.
Merci Nicolas, et le cadeau que nous offrons tous les deux, Nicolas et FM+, à nos auditrices et auditeurs, c'est Ophélie Winter, Dieu nous a donné la foi. Au revoir.
Au revoir Guylaine.
J'étais assise sur une pierre, les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire, ou trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière, j'y ai béni mon âme. Ces mensonges qu'on m'a dit.